Bienvenue dans Art Interview sur Art District, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel, qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture. Bonjour à tous, c'est Julie Chaise-Martin sur Art District. Dans cette émission aujourd'hui, je vous emmène d'abord à Montrouge, découvrir l'exposition Mini-Art Textile, consacrée à l'art textile petit et grand. Puis nous irons au centre de Paris, au 17 rue de Richelieu, où vient de s'ouvrir un nouveau lieu d'art atypique, car niché au cœur d'un hôtel de luxe. C'est le Drawing Lab, consacré au dessin contemporain, au sous-sol du Drawing Hotel. Enfin, Yannick Lins, directrice du département des arts de l'islam, nous présente la troisième et dernière conférence consacrée aux arts de l'islam qui se tiendra vendredi 3 mars à l'Auditorium du Louvre à 19h. Tout de suite, direction Montrouge donc. Bonjour Andrea Poncini, on est au Beffroi de Montrouge et c'est l'exposition Mini-Art Textile, une exposition qui met en valeur l'art textile, l'art contemporain textile. Vous êtes commissaire de cette édition à Montrouge qui a lieu depuis 13 ans maintenant. Alors pouvez-vous nous présenter Mini-Art Textile? Qu'est-ce que cet événement et d'où vient-il?
Bonjour. Bien sûr, donc Mini-Art Textile, à l'origine, c'est une rencontre, un coup de cœur même, on peut dire, de l'ancien maire de Montrouge, Jean Louméton, qui était très lié à l'Italie pour ses origines et qui était très lié à l'art contemporain. Et notamment, il a développé dans ses 20 ans de mandat une politique très offensive sur la culture, sur l'art et sur le fait que Montrouge c'est lié à l'art contemporain dans un contexte européen. Donc, à la recherche des partenariats, notamment qui ont été tissés pour la Biennale Jeune Création Européenne, qui est un autre projet filiation du Salon de Montrouge, il est arrivé à Côme et il a rencontré la famille de Arte Arte. Donc, c'est une association, on va dire, à conduction familiale, mais financée par la ville de Côme, qui avait donné vie à Mini-Art Textile. Et comme ça, donc, il y a eu l'idée de prolonger cette exposition qui a lieu tous les ans au mois d'octobre à Côme en Italie, et l'accueillir systématiquement, donc depuis 13 ans, c'est ce qu'on fait, au mois de février à Montrouge.
Donc ça s'ancre vraiment dans la dynamique de mettre en valeur l'art contemporain à Montrouge. Cette manifestation vient de Côme en Italie. Je crois qu'elle va à Venise aussi, il me semble.
Oui, absolument. Donc l'idée donc est partagée parce que les Totaro aussi, les commissaires italiens donc de la fondation Arte Arte, avaient l'idée qu'une fois faite la sélection et montés ces beaux projets, ils puissent se reproduire 4-5 fois, notamment à l'international. Donc, grâce à nous, il y a deux étapes françaises qui se font à rythme de biennale. Donc, une année, ça va à Caudry, au musée de la Dentelle, et une année, ça va à Gif-sur-Yvette, donc qui est dans le Val de Bièvre et fait partie d'un parcours de randonnée et tout ça aussi culturel. Et puis, bien évidemment, à Venise, donc c'est un partenariat qui date de la même année de celui de Montrouge, donc depuis 13 ans. Les musées du textile qui se trouvent à Palazzo Mancenigo, il accueille aussi cette exposition, qui est visible donc dans les deux ans qui font son parcours quatre fois.
Alors, aujourd'hui à Montrouge, cette année, édition 2017, on a 54 mini-textiles, je crois qu'on appelle ces petites œuvres comme ça. Et on a également des installations monumentales visibles. Comment la sélection se fait? Je crois qu'il y a un appel à candidature auprès d'artistes.
C'est ça. Donc l'idée qui était à la base de ces œuvres des petites dimensions, ces 20 cm au cube, était de les faire arriver de partout dans le monde avec une logistique assez simple. Et cet exercice un peu propre aussi à l'art textile traditionnel, d'œuvres très intimes, très minutieuses, donc sur des petites dimensions. Et là, il y a environ 400 candidatures chaque année, et donc un jury qui se retrouve tous les mois de juin, Ils sélectionnent les œuvres qui sont les mêmes présentées à Côme, à Venise, comme on a dit, à Montrouge et dans les autres étapes. En plus, donc, ça fait 25 ans maintenant qu'existent les projets en Italie. Il est de plus en plus reconnu et de plus en plus aussi, on va dire, les artistes ambitionnent d'en faire partie, donc de plus en plus demandés.
De plus en plus réputés.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a des artistes plutôt plus célèbres du milieu art contemporain et de la niche un peu de fiber art qui se rapprochent de Totaro et eux-mêmes, ils démarchent des artistes. Donc, un des partenariats en cours pour les prochaines éditions, c'est avec un musée de New York pour dire qu'ils ont beaucoup de contacts à l'international. Notamment, il y a beaucoup d'artistes américains, beaucoup d'artistes japonais qui passent par l'origami, l'art, les travaux de la soie, des tissus un peu précieux.
C'est-à-dire qu'au Japon, il y a une vraie tradition de l'art textile.
Voilà, et qui continue dans la version art textile contemporain. Et après, bon, il y a eu des tapisseries très spectaculaires d'artistes renommés à l'international pour faire ça.
Par exemple, parce que c'est vrai que l'art textile est peut-être beaucoup moins connu que l'art pictural, par exemple.
Oui.
Quels sont les grands artistes, par exemple, d'art textile qui ont pu... ou des artistes réputés qui ont pu participer aux éditions Mini-Art Textile ou qui se sont fait connaître par la suite? Qui ont été sélectionnés par exemple dans une édition antérieure et qui aujourd'hui ont pu développer leur art, se faire mieux connaître.
Oui, alors eux ils font vraiment appel à, en général à une vedette. Donc par exemple cette année il y a Janet Eckelman qui a cette très belle installation qui occupe le cœur de l'expo. Oui. Donc une vedette, c'est-à-dire un artiste contemporain très en vue. Pas forcément qui est spécialisé dans les milieux du textile, mais voilà, il y a toujours une accroche parce que là, effectivement, c'est une œuvre à base aussi des textiles, mais aussi d'éléments technologiques, ce qui est un peu typique aussi de la fiber art en ce moment, de conjuguer cet élément traditionnel avec, ça peut être de l'éclairage en LED ou de l'éclairage électronique avec des éléments de fibre optique, par exemple, ou d'éléments tout à fait matériaux qui appartiennent plus à l'univers de la sculpture et qui sont prêtés avec ces jeux un peu de la trame du jeu de la texture. Donc ça peut être du bronze, du métal, etc. Après, donc, y a des artistes aussi comme Marina Abramovic, par exemple, qui ont participé dans l'historique des mini-arts textiles. Et ça, c'est par les biais d'œuvres textiles qui ne sont pas forcément au centre de leur parcours.
D'accord.
Donc, donc, soit c'est des œuvres très puissantes qui font un peu la gloire d'un artiste et qui permettent de les reconnaître. Et comme l'œuvre que j'ai citée tout à l'heure, de la mettre un peu en testimonial de l'exposition. Soit c'est un artiste très connu par ailleurs et qui devient un peu la vedette. Autour de ça, effectivement, il y a une fonction de tremplin pour des artistes qui peut.
Donc déjà. L'art textile peut effectivement être un tremplin ensuite.
Oui, voilà. Déjà, n'étant pas un milieu très nombreux, très très large. Il y a une certaine fidélisation des artistes. Par exemple, vous êtes sélectionné par un mini textile et 2-3 éditions après, vous revenez avec une œuvre produite par l'association. Et après, vous faites une œuvre monumentale. Donc, l'esprit d'Arte Arte, c'est justement aussi de tisser dans les temps les liens avec les artistes. Peut-être parler de tremplin en général, c'est un peu... Enfin, c'est pas forcément le but, parce que c'est quand même des artistes qui sont bien confirmés dans leur milieu en général. Il n'y a pas vraiment les jeunes artistes. C'est pas une expo qui est communiquée en tant que tremplin. Mm-hmm. Mais ce qui est facile de voir et de revoir, c'est des relations qui se tissent justement entre le commissariat des Arte Arte et les artistes. Et qui mène à des collaborations ou être acheté par des collectionnaires qui sont proches de la famille à Côme ou être présent justement dans les éditions suivantes. En général, les artistes ils sont très bien accueillis. Là-bas, il y a aussi des lieux de résidence qui peuvent accueillir les artistes, qui restent donc même un mois avant l'exposition. Et du coup, ça permet de produire vraiment des œuvres assez spectaculaires.
Et alors, en France, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence par rapport à l'Italie au niveau de l'art textile? Est-ce qu'en France, finalement, c'est un art qui n'est pas très connu encore, qui est un peu à la marge, alors qu'en Italie, cet événement a été créé depuis plusieurs années, bien antérieurement à l'édition de Montrouge. Mmh. Donc, est-ce qu'à Côme, il y avait déjà une tradition textile et c'est pour cette raison, par exemple, qu'il y a eu cette création de
l'art textile? Oui, certainement. Une des choses qui a fait aussi prendre ces projets à Côme, c'est qu'étant la ville de la soie en Italie, il y avait un milieu assez accueillant par rapport à ce type de projet, même en termes de mécénat. Parce que ça reste, à mon avis, c'est un peu la même chose en Italie et en France. C'est pas forcément l'art textile, quelque chose qu'on peut séparer du reste de milliers, mais c'est des artistes qui sont un peu en marge. C'est des artistes qui font, enfin, il y en a qui sont, voilà, comme je disais, un peu multi-support, mais les artistes purement textiles, c'est pas forcément les artistes les plus connus ou les plus cotés. Mais il y a quand même des galeries dans Paris, aussi bien qu'à Milan, qui sont spécialisées à mettre en avant ce type d'art qui est quand même plus à la frontière avec design, un peu l'objet de luxe, un certain type de...
Voilà, il y a aussi la notion d'artisanat.
Haute couture, artisanat.
Et il y a aussi, je pense, aujourd'hui peut-être une tendance sur l'art un peu écologique.
Oui, ça permet justement les artistes qu'on récupère plus du milieu art contemporain ou art brut, on peut dire révisité, c'est des artistes qui recherchent beaucoup sur les matériaux, c'est-à-dire la recherche d'installations qui tournent autour de l'environnement, qui tournent autour de des déchets, qui tournent autour de redonner un peu une nouvelle forme à quelque chose qui est un peu oublié. Et du coup, effectivement, c'est cette conjugaison entre certaines techniques peut-être du passé et des matériaux assez nouveaux, même pas avant on parlait des matériaux technologiques, mais ça peut être des matériaux très très pauvres et qui sont après recontextualisés en version artistique. Et ça, c'est des installs spectaculaires. Par exemple, il y a une sculpture de 30 mètres de haut qui ont présenté à Côme lors de la dernière édition sur l'escalier monumental d'une villa et qui est faite qui est par des sacs plastiques de toutes les couleurs. Et donc, et vraiment, on ne réalise pas du tout que c'est à base de sacs plastiques. On voit quelque chose de très monumental, de très chic finalement, et c'est obtenu à la base avec la trame de sachets de sacs poubelles.
Et oui, là, il y a un message, évidemment, aussi à la communauté internationale pour dire que le plastique pollue.
Tout à fait. J'imagine. Oui, il y a justement un croisement. Bon, les thèmes, ils ont été très proches. Les deux thèmes précédents, c'était sur l'alimentation, enfin, invitation à table. C'était l'année de l'alimentation et c'était les thèmes de l'Expo universelle de Milan. Donc, Mia Textile s'était accordé sur ça en 2015-2016. Et l'année précédente, c'était Géa, donc les mots, enfin, Géa, donc la terre, les mots grecs qui fait référence à l'environnement, à la mère terre, donc aussi au respect de la nature quelque part et de l'environnement.
Et cette année, le thème, c'est tisser des rêves. C'est vous qui avez choisi le thème, comment ça s'est passé?
Alors nous on reprend effectivement sur les thèmes et sur les commissariats qui ont été faits par nos amis italiens.
À Côme, oui.
Mais ça nous convient bien que ça soit, on va dire, un peu de passer à la rêverie après une année assez difficile et après, effectivement, un moment où on a l'impression qu'il y a un blocage. Enfin, même les artistes, ils déconnectent de l'univers politique ou de l'univers économique pour essayer de trouver comme un escape, enfin comme on dit en anglais,
s'évader, une fuite, une voie de se concentrer sur autre chose de plus positif,
exactement,
de plus futile peut-être aussi, et donc tisser des rêves, ça va bien effectivement avec l'art textile qui est assez délicat, un peu fragile aussi,
oui.
Où on peut faire jouer la lumière à l'intérieur.
Tout à fait.
Vous avez eu comme ça beaucoup de d'œuvres, enfin qui ont été sélectionnées, qui vous ont plu au niveau,
oui,
de la,
absolument,
de
on a trouvé ici, c'est un lieu qui se prête très bien à jouer avec la lumière justement et les clairs-obscurs en étant dans un grand espace très ouvert, et on a trouvé que cette dimension poétique aussi de révéler, de laisser entendre des choses mais de pas tout dire, c'était quelque chose qui convient bien aussi à l'attente de cette expo, qui c'est plutôt d'un moment intime, d'un moment un peu précieux, voilà, par rapport au Salon de Montrouge ou à la Biennale où on vient pour découvrir des choses que on est censé après voir monter et voir se révéler. Là, on vient plutôt pour chercher voilà quelque chose de précieux, d'un peu quelque part des bijoux artistiques qu'on peut garder en prenant les plaisirs à les regarder et approfondir ses parcours.
Voilà, des petits bijoux artistiques en tissu avec des matériaux multiples également. À voir donc au Beffroi de Montrouge jusqu'au 19 mars pour l'exposition donc Minière Textile. Merci beaucoup Andrea Ponsini.
Avec plaisir.
D'avoir répondu à mes questions, merci.
Merci à vous.
Bonjour Leroy, vous allez nous présenter l'œuvre que vous présentez ici à l'exposition Minière Textile qui s'appelle Visage. Alors est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu? On est à la radio, mais voilà, essayez de faire vivre l'œuvre que vous avez confectionnée pour les auditeurs.
Alors l'idée avec cette œuvre, c'était de faire deux visages. Donc en fait, il y a un visage qui est rouge et de l'autre côté, il y a un visage blanc. Donc en fait, ça fait deux faces qui forment une tête un petit peu irréelle. Donc c'est un travail en dentelle au fuseau, qui mesure environ 20 cm sur 20 cm, c'était la contrainte pour l'exposition.
Justement, voilà, on a dans cette exposition plusieurs artistes qui ont tous présenté d'une part donc, des œuvres miniatures, et puis à côté on a aussi des œuvres monumentales. Vous faites partie de la série donc des œuvres miniatures, on peut dire miniatures dans ce cas-là?
Oui, je pense, puisque c'est le nom de l'événement Mini Art Textile, donc c'est vraiment la contrainte de
Est-ce
ne pas dépasser. Oui, ouais,
c'est
ouais. Après, comme je travaille la dentelle, ça reste des petits formats en général, mais c'était vraiment aussi un défi de rester dans les 20 cm, c'est vraiment une contrainte.
Alors justement, cette exposition effectivement présente, enfin est axée sur le tissu, hein, l'art du textile. Le thème c'était tisser des rêves. Pourquoi vous avez pensé à faire cette sorte de Janus, ce double visage?
Alors j'avais envie vraiment de faire un visage déjà rouge, puisque dans la plupart de mon travail c'est toujours je travaille beaucoup le rouge, c'est une couleur que je trouve intéressante, qui réfère vraiment au corps, à la chair. Donc je voulais vraiment avoir ce visage rouge. Et derrière, vraiment superposé au dos de sa tête, je voulais avoir un visage blanc vaporeux. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une transparence dans cet objet et d'avoir d'un côté le visage, le corps de chair qui, un peu pour moi, parce que mon point de vue, c'est qu'il est en train de dormir. Mais en même temps, c'est la même personne, ça forme un tout. Et l'autre côté est en train de rêver, il a les yeux ouverts, la bouche ouverte, il est plus vaporeux, il est en train de...
Donc c'est le songe,
voilà.
L'idée du songe,
c'est ça.
En lien avec le thème « Tisser des rêves ». Vous êtes artiste principalement sur le textile aujourd'hui? Vous travaillez en Bretagne, je crois.
Oui, je travaille en Bretagne, principalement sur la dentelle, le textile, mais aussi le dessin et la photographie.
Et alors, le textile aujourd'hui, en art contemporain, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements, comme Minière Textile, par exemple, pour présenter votre travail? Est-ce que ce sont des événements Minière Textile est un événement important pour vous ?
Oui, je trouve que c'est un événement majeur dans le... dans l'art textile contemporain. On trouve vraiment des pièces d'artistes contemporains et c'est ça qui est vraiment super dans cette expo. Notamment, donc, ça nous permet à nous de présenter des petites pièces, mais on peut voir aussi des artistes qui ont réalisé des œuvres monumentales et c'est là vraiment le textile prend toute sa place et envahit l'espace et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant.
Vous faites aussi du monumental parfois ou vous cantonnez plus
Après, c'est plus compliqué au niveau...
Il faut plus de tissus, d'espace.
Voilà. Il faut de l'espace et du budget et
voilà.
Du temps.
Mais finalement, avec une petite œuvre, on peut faire un petit chef-d'œuvre aussi.
Ben oui, tout à fait. Et ça prend aussi énormément de temps et il faut être très patient. C'est-à-dire que là, cette petite œuvre de 20 cm sur 20 cm, moi j'ai mis plusieurs heures, plusieurs jours à la faire. Donc c'est aussi un travail qui est minutieux et je trouve ça aussi intéressant d'avoir cette confrontation entre des œuvres monumentales ou qui ont un impact visuel direct et puis vraiment de s'intéresser à ces petites œuvres et de les regarder d'un peu plus près.
Bonjour Anne-Marie Bertrand. Alors je suis toujours à l'exposition Minière Textile au Beffroi de Montrouge. Vous êtes également une artiste donc qui expose dans cette exposition. Vous exposez un mini textile, je crois que ça s'appelle comme ça.
Oui.
Effectivement, il y a 54 mini textiles qui sont donc présentés en alignement dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre œuvre ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Comment vous avez voulu coller au thème Tisser des rêves ?
Alors, Tisser des rêves, je rêve assez souvent que je perds mes chaussures.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, des fois, je les retrouve, des fois, je ne les retrouve pas. Mais dans un des rêves, j'étais enfant et ça se passait je les ai perdus dans une forêt. C'était l'hiver et je les ai retrouvés. Donc voilà, c'était juste l'image du rêve autour des chaussures.
Donc pour une fois, vous avez retrouvé vos chaussures.
Voilà, exactement.
Et dans cette toute petite installation miniature, vous avez mis en scène une petite paire de chaussures rouges.
C'est ça.
Au milieu d'une forêt de fils. Enfin, comment on peut...
Fils et feuilles, oui. Alors,
c'est assez féerique.
Oui, c'est ce que je voulais rendre. Et en plus, les chaussons sont posés sur un petit miroir. Donc là, on peut traverser le miroir et aller au-delà du rêve. Hein.
Et puis, il y a la lumière qui filtre à travers cette forêt de textiles. Alors justement, quel matériau vous avez utilisé ?
Alors, c'est technique mixte. Hein. J'ai utilisé pour ces petites feuilles de lin tissé. L'intissé, c'est... Moi, je réutilise beaucoup les choses. Donc, c'est les petites lingettes que je mets dans ma machine à laver pour éviter la décoloration. Et je peins en blanc et coupé après avec des petites presses. Hein, et une petite presse que j'ai trouvée dans un vide-grenier, toute petite. Je pense que c'est une presse pour les enfants. Et j'ai trouvé la taille de mes petites feuilles. Donc, j'étais très contente. J'avais mes petites feuilles. Alors après, il fallait que j'arrive à les mettre en scène. Et donc, j'ai utilisé là aussi des fibres. Tout ça, c'est nouveau, des fibres hydrosolubles.
Mm-hmm.
Alors, il y en a qui sont adhésives. Donc, je posais mes feuilles.
Mm-hmm.
Je prenais une autre fibre hydrosoluble que je posais dessus. Donc, ça faisait comme un sandwich.
Oui.
Et après, je passais ça à la machine.
Mm-hmm.
Voilà. Et mes petites branches, mes petites feuilles étaient tenues. Voilà. Donc, j'ai presque 350 petites branches en fil. Et j'ai plus de 2000 feuilles.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même.
Donc, un travail très minutieux.
Très lent.
Très lent, combien d'heures, de temps, de jours ?
Je ne peux pas le dire. J'ai dû travailler pendant 3-4 mois. Mais en faisant aussi des tableaux en train, puisque mon travail en général, ce sont des tableaux. Là, c'était un travail très particulier. Donc, en revenant, et voilà. Mais j'ai mis, 4 mois au moins pour ce travail. Et la partie la plus longue, c'était la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a aidé un petit peu avec le bois, parce que moi, je ne sais pas bien travailler le bois aussi finement. Et donc, il a fallu faire un tissage pour accrocher chaque petite tige de fil, et en dessous une planche avec des petits trous pour maintenir, pour que le fil soit tenu en haut et en bas. Et après, il y a un tissu sur la base, donc, qui cache un petit peu cette feuille de bois percée, si on veut. Mais tout ça devait être collé avec précision, avec de la colle à bois.
Voilà, donc
il fallait que ça tienne.
Il ne faut plus y toucher.
Non, mais bon, quand
c'est
même,
fragile,
ça visite.
C'est cette fragilité qui fait aussi
son charme,
Bien sûr, de l'œuvre. Alors, Anne-Marie Bertrand, est-ce que vous avez l'habitude de travailler le textile?
Ah oui, oui.
Oui. Voilà, vous disiez que vous faisiez des tableaux aussi.
Oui, mais avec du textile,
avec
toujours.
Du textile, d'accord. Vous êtes vraiment spécialisée sur ces
techniques-là. Oui, parce que ça fait très longtemps maintenant que j'ai commencé. Vous êtes artiste
depuis longtemps.
Oui. Ouais. Et en fait, quand je dessine, c'est pas très intéressant. Et dès qu'il y a la matière textile, ça prend vie. Enfin, ça... C'est une matière que j'aime beaucoup. Bon, puis le textile, on vit dedans de la naissance jusqu'à la fin des jours.
Et c'est donc des tableaux plus souvent et aussi des petites installations comme ça, où c'était la première fois?
J'ai fait une grande installation dans une exposition pour la ville du Mans, avec des feuilles aussi, mais c'était très, très haut, très grand. Et quand j'ai vu le sujet du concours, là, je me suis dit, je vais faire une petite forêt, voilà, pour mon rêve.
Et ça a bien fonctionné, vous avez été sélectionnée.
Oui, oui.
C'est la première fois que vous êtes présente dans ce concours.
Oui, c'est la première fois que je me présente, absolument, et j'ai été reçue, donc voilà.
Eh bien, bravo à vous, Anne-Marie
Bertrand. Beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir présenté votre travail, et bien, bonne exposition.
Merci à vous.
On quitte maintenant l'art textile, mais on suit toujours le fil, au Drawing Lab, qui est inauguré avec une exposition faite de dessins composés justement en fil.
Bonjour Christine Fall, enchantée d'être avec vous aujourd'hui au Drawing Hotel. Et à l'intérieur de ce Drawing Hotel, eh bien, les visiteurs peuvent découvrir un Drawing Lab. Alors je rappelle que vous êtes la créatrice du salon Drawing Now et vous avez eu l'idée de créer un Drawing Lab à l'intérieur d'un hôtel. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir pensé à ce concept assez original?
Alors, bonjour d'abord. Le concept est né d'une réflexion il y a en 2012 où nous étions dans ces lieux avant la réhabilitation de l'immeuble et où le promoteur avait consenti à ce que nous investissions les lieux avant la démolition. Donc nous avons eu la possibilité pendant une quinzaine de jours d'investir cet immeuble et de proposer à différents artistes de s'installer dans différents lieux avec leur manière de travailler, de dessiner, etc. Et c'est vrai qu'à cette occasion, j'ai trouvé que c'était vraiment fabuleux de pouvoir offrir aux artistes une durée et un budget pour pouvoir créer des œuvres qu'on n'a pas le temps de présenter au moment de Drawing Now.
Alors, il faut préciser que c'est un lieu entièrement dédié au dessin contemporain.
Alors, donc, l'idée, effectivement, à partir de ça, compte tenu aussi des relations que nous avons à l'international, avec le Drawing Center New York, avec la Drawing Room de Londres, avec la Drawing Room de Diepenheim, avec le futur Hub à Berlin, il y avait un tissu qui était ou existant ou en préparation, et il n'y avait absolument aucun lieu dédié au dessin contemporain à Paris. Donc, à partir de ce constat, je me suis dit que c'était quand même un peu dommage que Paris n'ait pas une structure vraiment dédiée aux expérimentations du dessin contemporain. Et à partir de ça, j'ai bâti une réflexion d'un centre d'art indépendant, privé, et permettant aux artistes d'avoir du temps pour s'installer, pour créer des œuvres in situ, et permettre aux visiteurs de découvrir toute la richesse et la diversité de ce que peut être le dessin contemporain.
Et alors, pour donc créer ce nouveau lieu, vous avez choisi une structure juridique qui est le fonds de dotation pour gérer donc ce lieu d'art. Pourquoi cette structure en particulier?
Alors, le fonds de dotation, je l'avais créé en fait pour accompagner nos lauréats de prix Drawing Now. Donc,
il existait.
Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est avec pratiquement tous les avantages fiscaux pour les donateurs d'une fondation, mais avec un petit peu plus de légèreté administrative, même si les contrôles sont extrêmement rigoureux et que chaque année, je dois vraiment justifier de chaque centime rentré et de chaque centime dépensé. Mais c'est vrai que ça a surtout un gros avantage, c'est de pouvoir associer à la fois des mécènes entreprises qui bénéficient d'une déduction fiscale de 60% et des personnes privées qui bénéficient d'une déduction de 66%. Donc c'est vrai que du coup, ça permet d'alléger pour le donateur le véritable coût de leur investissement.
Et ça permet de créer une communauté de mécènes
exactement.
entièrement tournée vers le dessin
exactement,
et sa promotion.
Exactement, et avec l'ouverture du lab, nous avons justement affiné notre offre autour d'un concept qu'on a appelé des society, avec différents niveaux d'accès, parce qu'on veut aussi favoriser par exemple les jeunes collectionneurs, les moins de 30 ans. On leur a fait une adhésion très intéressante. Ils bénéficient de prix dans notre boutique, la Drawing Shop, au Drawing Bar. Après, en fonction de 30€ à 400€,
en fonction du budget
de chacun, un certain nombre d'avantages sont proposés à l'intérieur de nos différents outils, que ça soit Drawing Now. Maintenant, on a effectivement trois outils autour du dessin, entre le Drawing Hotel, le Drawing Lab et Drawing Now.
Alors, il faut préciser qu'on est au 17 rue de Richelieu, en plein cœur de Paris, tout près du musée du Louvre, de plein de lieux d'art. Enfin, c'est vraiment un quartier très artistique, historiquement également. Et ce lieu d'art est ici, mais en plus à l'intérieur d'un hôtel de luxe, on peut le dire, hein, qui est tout nouveau, tout neuf. Et évidemment, une clientèle d'entreprises, d'hommes d'affaires va passer ici régulièrement.
Nous espérons, puisque l'hôtel va ouvrir la semaine prochaine. C'est vrai que dans le concept qui était envisagé par le promoteur qui avait acquis l'immeuble, leur réflexion était effectivement qu'on était dans un quartier fabuleux pour créer un hôtel. Et moi, je me suis dit, le centre d'art, c'est vrai que c'est bien aussi, compte tenu là aussi des liens qu'on peut avoir avec le Louvre, avec les arts déco. On est à côté de notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture. C'est vrai que c'est quand même un quartier extrêmement riche, comme vous l'avez dit. On a la Comédie Française au bout de la rue, une boutique de Sèvres, Cité de la Céramique, juste à côté. Voilà, tous ces liens-là sont des liens que nous, on a à travers, là aussi, Drawing Now. Et c'est une manière de capitaliser aussi, dans l'intérêt des artistes et dans l'intérêt du public, puisque ça permet aux artistes aussi d'être vus par un certain nombre de personnes qui ne viendraient pas forcément dans une exposition spécifique de dessin.
Oui, et effectivement, c'est aussi cette tendance aujourd'hui de créer des lieux d'art dans des endroits atypiques où on n'est plus dans un lieu muséifié ou dans une galerie d'art un peu qui peut faire peur peut-être aux non-initiés. Hein. Parfois, on n'arrive pas forcément passer la porte d'une galerie quand on ne s'y connaît pas. Donc, c'est vraiment une nouvelle tendance. Et est-ce que vous pouvez dire que ce lieu est quand même très original, que ça n'existait pas en France?
Alors, d'abord, effectivement, en France, il n'y avait aucun lieu dédié au dessin contemporain, premièrement. D'une part. Deuxièmement, au niveau des hôtels, il faut vraiment signaler qu'ici aussi, la dynamique, elle est vraiment autour du dessin et elle n'est pas du tout décorative. C'est-à-dire que Karine Tissot, qui elle gère la partie hôtelière, a vraiment sélectionné des artistes auxquels elle a confié une carte blanche pour les couloirs de l'hôtel. Et il n'y a, par exemple, aucun dessin, aucun tableau à l'intérieur des chambres. Les chambres ont vraiment été conçues justement pour apporter un confort aux visiteurs, touristes ou hommes d'affaires, ou il y a beaucoup de gens qui viennent pour leur travail au moment de la Fashion Week ou de Maisons et Objets, qui viennent du coup deux fois par an à Paris, etc. On espère qu'ils vont trouver ici, à travers ce lieu complètement atypique, un lieu qui leur permette de découvrir d'une manière non prévue une exposition de dessin expérimental, de profiter d'une boutique qui leur offre une sélection aussi de tout un tas d'objets autour du dessin, des ateliers pour enfants. Là, ça ne sera pas pour les visiteurs, mais voilà, on a aussi prévu des ateliers pour enfants qui ne seront pas des ateliers d'apprentissage de dessin, mais vraiment des ateliers conçus autour de l'exposition de l'artiste, avec connaissance de l'artiste et puis des applications qui vont être en rapport avec la technique utilisée par l'artiste.
Alors justement, pour donner envie aux auditeurs de découvrir ce lieu,
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'exposition qui inaugure l'ouverture de ce lieu en ce moment?
Alors, juste pour rappeler, donc dans ce principe de fonctionnement de centre d'art indépendant, nous avons fait des appels à projets de duo artiste-curateur. Nous avons reçu 150 dossiers et notre comité de sélection en a retenu 4. Et après, on a vu ensemble comment les programmer au cours de l'année. Et donc, la première exposition inaugurale est l'exposition d'un artiste japonais qui est Amori, qui est accompagné par le curateur Gaël Charbot. Et la particularité du travail de Keita Amori, c'est qu'il dessine sans papier, sans crayon, sans pinceau, sans aucun outil habituel du dessinateur, mais uniquement avec du fil. Il a investi l'ensemble du Drawing Lab avec une installation magnifique, vraiment avec toute une architecture un peu imaginaire, faite complètement en fil. Donc ce sont des fils qui sont collés avec des points de colle à chaud et qui du coup donnent un relief et une imprégnation dans son univers assez extraordinaire.
Donc un artiste à découvrir en suivant ses fils qui créent donc des dessins d'architecture hein, sur les murs et dans l'espace également avec une vidéo très, ouais,
la
très belle.
La vidéo est extrêmement pure, extrêmement belle. Voilà, et c'est vrai que là aussi, le Drawing Lab lui a permis d'expérimenter. Il n'avait jamais fait de vidéo et c'est vrai qu'il avait envie de montrer comment cette activité un peu ancestrale du jeu de la ficelle devenait quelque chose extrêmement graphique quand on le filme complètement dans le noir et d'une manière complètement pure avec juste les mains des manipulatrices. C'est une très belle vidéo.
Merci beaucoup Christine Fall de nous avoir présenté donc le Drawing Lab à découvrir au 17 rue de Richelieu à Paris. Merci à vous.
Merci.
Maintenant, on n'a que la rue de Rivoli à traverser pour terminer cette émission. Yannick Lintz nous attend au musée du Louvre. Directrice du département des arts de l'islam, elle nous présente la troisième conférence consacrée aux arts de l'islam à l'auditorium du Louvre qui aura lieu ce vendredi 3 mars à 19h.
Ce qu'on a voulu à travers cette troisième conférence, c'est encore une fois aller à l'encontre des idées reçues et se dire un des grands aspects aussi d'études de la peinture européenne ou de la peinture occidentale, c'est l'artiste lui-même. Et je dirais que à la limite, dans l'histoire de la peinture européenne, toute l'étude est basée sur la question de l'artiste. Quand on pense à Vasari, si on considère souvent que Vasari est le premier des historiens de l'art, bah finalement le principe de Vasari, c'est un principe hagiographique comme on dit, c'est-à-dire il s'est intéressé d'abord à la biographie des artistes avant de s'intéresser à l'œuvre elle-même.
Oui, c'est cet historien du 16e siècle, voilà, qui a écrit sur les grands peintres de son temps, voilà, avec Botticelli, Michel-Ange, enfin tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, voilà, qui sont considérés comme des artistes à part entière et donc des êtres humains assez, voilà, exceptionnels.
Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aller un public dans une exposition de peinture? L'exemple typique actuellement au Louvre, c'est Vermeer. On mise sur un artiste, on ne mise pas une thématique d'œuvre d'art. Donc c'est toute cette figure de l'artiste, voire ce mythe du peintre. Picasso, qu'est-ce qui fait que... Voilà, Picasso, c'est Picasso qui attire, c'est pas les tableaux de Picasso. Donc nous, on s'est dit, mais c'est pareil dans le monde islamique, mais personne ne le sait. C'est-à-dire, on connaît les artistes, on connaît les peintres, on a des signatures, on connaît les histoires de leur vie quand un peintre iranien d'origine, formé à Isfahan, finalement va finir par aller en Turquie pour travailler pour le sultan ottoman parce que c'est là-bas qu'il aura du travail. C'est la même histoire que les peintres italiens qui viennent travailler à la Renaissance pour le roi de France, par exemple. Donc pour moi, il m'a semblé très important de commencer aussi à défricher ce terrain et à montrer au public que c'est les mêmes histoires, simplement on nous les a jamais racontées. Et donc c'est ça qu'on va commencer aussi à défricher dans cette troisième conférence du 3 mars.
Merci beaucoup Yannick Lintz.
Merci.
Donc, pour découvrir les arts de l'islam, les grands peintres qui ont fait les arts de l'islam, et puis bien sûr les œuvres majeures et celles qui sont conservées au musée du Louvre, avec une dernière conférence le vendredi 3 mars. Merci à vous.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Louvre, www.louvre.fr. Merci.
Merci beaucoup.
Les billets pour ce cycle de conférences de 3 à 6 euros peuvent être achetés sur fnac.com, en rappelant que c'est gratuit pour les étudiants en art, histoire de l'art et architecture. Réservation également au 01 40 20 55 00. 01 40 20 55 00. Venez nombreux au cycle de l'auditorium du Musée du Louvre, découvrir les arts de l'islam. C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.